Ce soir, donc, nous recevons Pierre Caspar. Pierre Caspar est ingénieur civil des mines. Il possède un Master of Science de l'Université de Berkeley aux USA. Il est docteur en sociologie. Il est diplômé du cycle de management de Stanford INSEAD. Avant le CNAM, Pierre Caspar avait été l'un des responsables d'un organisme de coopération université-industrie et de développement régional. Il est cofondateur et PDG d'une entreprise spécialisée sur l'ingénierie de formation et le développement des ressources humaines. Et pendant cette période, il avait exercé différentes activités complémentaires. En particulier, il avait été membre du bureau du Centre des jeunes dirigeants, président de Syntec, qui est une organisation qui se consacre à la formation. Il appartient à la Chambre syndicale des organismes de conseil et il est maître de conférence à l'École nationale d'administration. Actuellement, il est donc professeur au Conservatoire national des arts et métiers et titulaire de la chaire de formation des adultes. Il est également membre du conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers et membre du comité scientifique du Musée des arts et métiers. Parmi ses spécialités, Pierre Caspar est spécialisé sur la formation des adultes, sur ses évolutions et sa prospective, sur la professionnalisation des métiers de la formation au sein du développement des ressources humaines, sur les rapports entre les technologies nouvelles, et les formations. Il est spécialiste de l'auto-formation, de la formation des dirigeants, des investissements immatériels, de l'étude et de la résolution de problèmes et de la création d'entreprises. Il est président du comité national d'orientation de l'édition pour l'enseignement agricole et outre de nombreuses publications dans des revues et outre de nombreuses publications, j'en citerai quelques-unes seulement, il a publié l'ingénierie de la formation inventaire acte du colloque organisé par l'ENESA SEAD et le CNAM, les universités de Bourgogne et Paris 6 et de Tours qui a eu lieu en juin 1997. Il a publié aussi « Nouvelles technologies éducatives et réseaux de formation des entreprises parlant de leur expérience », publié par EDF, GDF, France, Télécom, Renault. C'est aux éditions d'Organisation, qui s'est paru en 1998. Et « Traité des sciences et des techniques de la formation », qui est un ouvrage collectif publié sous la direction de M. Carré et de Pierre Caspar, qui est publié chez Duno et qui est sorti en 1999.
Cet amphithéâtre est très impressionnant, mais il a un gros avantage, c'est que, compte tenu de la lumière, on ne vous voit pas. Ce qui fait que je ne suis pas trop impressionné. Et très heureux d'être avec vous ce soir, pour parler du sujet que vous avez présenté. Je ne vais pas parler de tout ce que vous avez résumé, mais simplement quelques mots autour de la formation des adultes. Et j'ai choisi comme mode d'accès l'accès au savoir. Parce que c'est une question récurrente dont on parle depuis la nuit des temps. Et puis aussi parce que c'est une question à laquelle on apporte des réponses aujourd'hui, pour beaucoup tout à fait en rupture avec le passé. Alors parlons d'abord du passé. Quand j'étais petit, il y a déjà quelques jours, je me souviens très bien que mes parents répondaient aux questions d'information générale, mais ne répondaient jamais aux questions qui supposaient de rechercher de l'information ou d'identifier... des éléments particuliers, des noms propres. Qui est monsieur un tel ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors ma mère me disait toujours, prends le dictionnaire et cherche d'abord par toi-même. Il y avait dans la bibliothèque deux gros Larousse universels de 1929 dans lesquels il fallait les chercher. Alors ça prenait toujours beaucoup de temps parce que c'était ce qu'on appellerait maintenant sur le web une forme de navigation. Je m'arrêtais toujours au pavillon des navires, ça c'est absolument fascinant, aux planches sur les avions, aux champignons en couleur... Et puis, petit à petit, j'arrivais effectivement à trouver, sinon la réponse, du moins une réponse. Et c'est là que le dialogue commençait avec les parents. Il y avait une particularité dans la bibliothèque, je ne devrais pas vous le dire, c'est qu'il y avait des livres qui étaient couverts en rouge. J'avais accès à toute la bibliothèque, mais il était interdit à mon âge d'ouvrir les livres couverts en rouge qui pourraient mettre en péril l'équilibre de ma santé de jeune garçon. C'était ça, l'accès au savoir. Et si j'en parle, ce n'est pas du tout... pour faire une plaisanterie, c'est parce que c'est quelque chose qui m'a profondément marqué, dans la mesure où, sous forme de métaphore, on décrit ce faisant, en quelque sorte, tous les problèmes de l'humanité dans l'accès à ce que l'on peut savoir et dans l'accès à ce que l'on ne doit pas savoir, de l'arbre de la connaissance, du fruit de l'arbre de la connaissance. Tu ne mangeras point, tout le monde s'en souvient. Alors, comment est-ce que je vais traiter le thème d'aujourd'hui, un tout petit peu... en différence, en décalage avec ce qu'il y avait dans la brochure générale. Je vais suivre le plan suivant. Quatre parties. La première parlera du passé, les lieux et les êtres de savoir. Je le disais il y a un instant, c'est présent depuis la nuit des temps, mais et ils sont chargés de multiples fonctions. Cela dit, nous nous trouvons aujourd'hui confrontés à des mutations sociales tout à fait profondes qui font que, par exemple, l'entrée dans une société de l'information, qui font que ces lieux de savoir et ces êtres de savoir, nous aussi, les enseignants et les formateurs, sont eux-mêmes en pleine mutation, en particulier dans la formation des adultes. Je précise tout de suite que je vais faire quelque chose de tout à fait iconoclaste. Je parlerai essentiellement de la formation des adultes. Quand on parle de formation tout au long de la vie, ça n'a pas de sens de couper la formation des adultes et la formation initiale. Puisque je n'ai qu'en gros 50 minutes, je ne parlerai que de la formation des adultes, mais c'est bien d'un ensemble dont il s'agit. Et puis je terminerai par quelques questions plus sociétales qui montrent que ce qu'on fait, c'est absolument formidable, c'est enthousiasmant, c'est passionnant, mais qu'en même temps, il y a un certain nombre de questions qui restent, et de grandes questions qui restent en suspens. Voilà donc le plan de l'exposé. Deux remarques avant de rentrer dans le vif du sujet. La première, c'est que connaissant le public qui se réunit dans cet amphithéâtre et dans le voisin, je ne vais pas du tout faire étalage de références scientifiques et de sources. Il va de soi que ce que l'on dit ici, cette réflexion que nous aurons en commun, s'appuie sur un certain nombre de travaux de recherche. C'est la première remarque. Et puis la seconde remarque, c'est que c'est un peu audacieux aussi de parler du savoir, parce que les frontières entre l'information, le savoir, la connaissance sont assez subtiles. Mais en même temps, si je commençais cette conférence, cette leçon, comme on dit dans le fascicule, en faisant des distinctions sémantiques entre ces différents termes, c'était aussi assez délicat. Donc, je me suis borné à prendre le terme qui figure en ce moment un petit peu partout. J'ai apporté des brochures. L'université de tous les savoirs, vous la connaissez. Dopez-vous au savoir 365 jours sur l'année. Mais également la brochure de Léviette, Osez le savoir. Mais également la brochure de la Fédération des associations des anciens élèves du CNAM. Vouloir savoir, on trouve ce mot partout, c'est de lui que je partirai pour essayer de nuancer davantage mon propos un peu plus tard. Alors, premier aspect, les lieux de savoir et celles et ceux qui les font vivre. Des siècles durant, apprendre dépendait essentiellement de la possibilité d'accéder à des lieux de savoir et de la capacité de faire usage de ces savoirs avec discernement, j'y reviendrai. C'est-à-dire aller dans des temples, dans des monastères, des bibliothèques, etc., etc., où l'on trouvait à la fois des objets, des manuscrits, des documents, mais aussi des personnes qui avaient à dire sur les savoirs ici rassemblés. Ces lieux de savoir ont existé dans toutes les époques. Je vais commenter très rapidement ceci. Par exemple, les temples et les monastères, quelle qu'en soit la divinité ou l'esprit duquel ils procèdent. Ce sont des communautés théologiques, spirituelles, philosophiques, au sein desquelles les bâtiments s'inscrivent, bien sûr. Ils sont trop nombreux ou trop riches d'histoire pour que j'en cite un seul. Mais ils sont très souvent à l'origine de ce que nous savons. Les grandes bibliothèques ont rassemblé des tablettes d'argile, des papyrus, des documents, des pierres gravées, mais aussi des livres qui matérialisaient à l'époque tous les savoirs de l'humanité. Je ne sais pas pourquoi, mais alors, tout petit encore, le sac de la bibliothèque d'Alexandrie m'avait fait, que je n'ai pas connu, je le précise tout de suite en direct, m'avait fait une peine considérable. Parce que je me disais, mais quelle extraordinaire perte irréparable. C'est un peu comme les documents mayas ou aztèques qui ont été brûlés pour beaucoup, les bibliothèques, c'était cela. On en connaît encore beaucoup, on se souvient celle d'Alexandrie, de celle de Pergame, on parle maintenant de très grandes bibliothèques, de centres de ressources, de banques de données, c'est un peu moins poétique, ça remplit encore les mêmes fonctions, j'y reviendrai. Les universités et les centres de recherche ont souvent été liés aux deux catégories précédentes. Certaines ont été particulièrement solennelles. Je pense à l'université de Bologne, qui a été fondée au début du XIIe siècle et qui existe bien sûr. D'autres étaient beaucoup plus modestes. Je pense à celle de Bourges, qui n'existe plus sous la même forme maintenant, mais qui a été très, très rayonnante au Moyen-Âge. On dit que Ignace de Loyola y est passé. Beaucoup étaient des lieux de savoir, mais aussi des lieux de débat, des lieux d'argumentation, des lieux d'examen, des lieux de délivrance de grades. Et puis certaines étaient beaucoup plus informelles. Il y en a une qui m'a beaucoup frappé, c'est le temple de la littérature à Hanoï, qui a été fondé en l'an 1200 quand même, et qui était un lieu où les gens qui passaient dans la rue pouvaient venir confronter leur capacité à écrire et à dire ce qu'ils avaient écrit et à en parler devant les autres. Et puis il y avait un prix, une tortue géante en pierre, pour qui serait le prince de la littérature de l'année. Alors voilà pour des exemples tout à fait classiques. Il y a des lieux beaucoup moins connus, je crois. J'en citerai là également trois ou quatre exemples. Les lieux de protection du patrimoine, de tout temps, pendant la Révolution française, pendant les guerres de religion, des personnes de bonne volonté ou des organismes plus officiels ont cherché à mettre de côté des témoins du passé parce qu'ils savaient que ces témoins étaient porteurs de connaissances et de connaissances éventuellement dont la perte serait éventuellement irrémédiable. Et puis, il y a eu des cabinets de curiosité. Cabinets de curiosité, on en parle avec une certaine affection au CNAM parce que c'était des lieux tout à fait étranges dans lesquels on rassemblait des objets venant de tous les pays, de toutes les époques, pour les montrer, mais surtout pour s'intéresser au monde. Il y en a un qui existe encore, qui est le château d'Ambray, en Autriche, qui a rassemblé depuis la Renaissance, comme autant de témoins de la représentation du monde, des objets exotiques ou insolites. Il y a eu Place Vendôme avant que d'autres s'y installent, je pense à des cabinets de curiosité comme des bijoutiers ou autres de nos jours. Et il y avait là le cabinet d'un monsieur Bonnier de la Mosson, qui avait un immense appartement de 8 pièces, chacune dédiée à des objets particuliers, et en plus une bibliothèque universelle. Et puis il y avait aussi des cabinets de physique, ce sont les autres d'ici, et des cabinets de mécanique, je pense à des collections que le CNAM possède maintenant, par exemple la collection de l'abbé Nollet sous le règne de Louis XV, et la collection bien sûr très célèbre de Vaucanson, avec les maquettes et les modèles en vraie grandeur, dont nous conservons encore ici de nombreux exemples, sauf le canard, qui savait, paraît-il, faire tant de choses et qu'on n'a jamais retrouvé. Les musées ont bien sûr prolongé ces cabinets de curiosité ou de mécanique, mais toujours dans le même esprit de lieux de collection, de lieux de préservation, de restauration, de démonstration, c'est très important, et avant toute chose, je dirais peut-être des lieux d'émerveillement. Et puis, il y a les cours royales. Alors, les cours royales, on n'a pas toujours le souci de les présenter comme des lieux de savoir. En réalité, il y en a qui ont été tout à fait extraordinaires. Par exemple, la cour de Frédéric de Prusse, ou la cour de Catherine de Suède, ou encore la cour du roi Akbar aux Indes au XVIIe siècle. Tous ces lieux étaient des lieux de rassemblement d'hommes et de femmes, rapprochés par des projets de vie analogues. Tous ces lieux étaient aussi des lieux de recherche, tant il est vrai que le savoir attire le savoir et suscite le questionnement, que la culture se nourrit de culture, que l'ouverture d'esprit apprivoise et ouvre d'autres esprits en retour, et bien sûr que la confrontation des savoirs peut créer d'autres savoirs. C'est une des choses qu'on découvre très régulièrement dans cette belle maison, c'est à quel point des savoirs nouveaux se créent aux interfaces entre les disciplines, parfois peut-être plus que dans les disciplines elles-mêmes. L'encyclopédie n'était-elle pas à la fois, c'est sa propre expression, une invention et un inventaire? Alors, je ne voudrais pas terminer cette première partie sans rappeler que ces lieux de savoir remplissaient de multiples fonctions. Ils étaient des lieux où l'on pouvait témoigner sur les origines du savoir, parce que le savoir peut être considéré comme révélé, et contribuer ainsi au fondement même d'une société donnée dans ses rapports avec la vérité et avec la transcendance. Ces lieux permettaient aussi de créer des savoirs. C'est une façon de répondre aux problèmes du temps, parfois de façon momentanée. C'est toujours le cas de personnes, parfois dans des institutions, parfois isolées, dont la curiosité insatiable, l'insatisfaction face à ce que l'on croit connaître du monde, les conduisait à vouloir sans cesse accroître l'intelligence que l'on a des choses, des êtres et de l'univers. Je pense là aux savants, je pense aux chercheurs, je pense également aux explorateurs qui ont contribué pour beaucoup à notre connaissance du monde. Il faut aussi conserver les savoirs. C'est parce que des lieux se sont dotés de cette fonction que nous avons encore aujourd'hui ce que nous connaissons, par exemple, dans nos bibliothèques. Un lieu de conservation, pour moi, c'est la bibliothèque de Babel, de José Luis Borges. C'est quelque chose de très extraordinaire. Mais dans cette même fonction, il faut voir que d'autres fonctions ont été remplies aussi. J'en citerai deux. D'une part, protéger les savoirs. Il y a eu des périodes de l'humanité dans lesquelles, je ne parlerai pas du petit livre rouge ou autre, mais dans lesquelles ce que l'on savait dans le passé était par construction quelque chose qui troublait l'ordre nouveau et qui donc méritait d'être détruit. Et il y a eu des personnes qui, pendant ces périodes troublées, ont conservé les supports des savoirs dans des lieux secrets jusqu'à ce qu'il soit possible de les mobiliser. Juste un exemple qui touche directement à l'histoire de cette maison. L'abbé Grégoire, pendant la Terreur, était membre du comité de l'instruction publique. Ce comité connaissait énormément de choses, mais se gardait bien de les exprimer. On pouvait s'exprimer, mais au péril de sa vie. Et dès que la Terreur a été terminée, en quatre semaines, ce comité de l'instruction publique a été capable de créer quatre institutions qui existent encore aujourd'hui. L'école polytechnique, l'école des langues orientales, qui a un peu changé de nom maintenant, l'école normale supérieure et le Conservatoire national des arts et métiers. C'est-à-dire que ces savoirs étaient comme dans une serre, sur un humus cultivé, entretenu, préservé, et qu'on les a libérés à ce moment donné. Préservé, c'est aussi le nom de la rose, au passage. C'est-à-dire des personnes qui se donnent le droit de dire qui a le droit d'accéder à quel savoir et qui n'a pas le droit d'y accéder. Tout le monde a vu le film, je n'en parlerai pas. C'était un petit clin d'œil à Umberto Eco qui a fait aussi des choses pour cette maison. Et puis, c'est détenir les savoirs, c'est-à-dire les détenir en étant ou non propriétaire. C'est une expression qu'on entend souvent ici, mais vous n'êtes pas propriétaire des choses. Vous les transmettez. Transmettre, c'est la fonction la plus classique de ces lieux de savoir. Je voulais simplement attirer votre attention sur le fait qu'il ne suffit pas de parler pour que les choses soient appropriées. On parle de médiation. Et la médiation dans la transmission du savoir, ça consiste à structurer, formuler, présenter les savoirs pour faciliter leur appropriation. Et quel que soit le nom que l'on donne à ces médiateurs, les tuteurs, les précepteurs, les professeurs, les moniteurs, les enseignants, les formateurs, etc., tous ont en commun d'exercer des fonctions d'éducation et de socialisation. Tous ont en commun à créer les conditions d'un apprentissage réussi, car il faut souvent reconstruire et reconceptualiser les savoirs savants pour les rendre assimilables. Il faut souvent les retraduire et parfois les recréer. Il faut aussi, même dans la décennie Internet, être convaincu qu'il ne suffit pas de dormir sur un livre ou d'avoir les savoirs du monde sur son écran pour être capable de s'approprier ce qu'ils détiennent. C'est donc ça le rôle de la médiation. Et même si apprendre peut s'apprendre, faire l'effort d'apprendre ne veut pas forcément dire comprendre. Les savoirs résistent à se livrer si on les aborde prématurément. Vous voyez que là, la frontière entre information, savoir et connaissance commence à devenir beaucoup plus ténue. Alors c'est en cela que cette fonction de transmission est profondément aussi, si on le souhaite en tout cas, une fonction d'éducation. J'y crois profondément parce que je suis de plus en plus persuadé qu'il faut de la maturité pour être en mesure de développer en soi et pour les autres l'intelligence des savoirs, qu'il faut de la sagesse et de la lucidité pour pouvoir identifier, trouver, s'approprier le savoir pertinent pour pouvoir les mettre en œuvre avec efficacité, mais également avec discernement. Il faut donner du sens à ce qu'il signifie pour aboutir à ce que on peut alors appeler une connaissance, la connaissance en général ou la connaissance avec un C majuscule. Ceci sera pour ce soir un autre débat. Alors voilà pour les lieux et les êtres de savoir qui sont, vous le voyez, à la fois héritiers des sources, mais en même temps gardiens des savoirs, vigilants sur leurs usages. Ils ont rempli des fonctions essentielles, ils les remplissent encore aujourd'hui, mais de toute autre façon, et ce sera l'objet de la seconde partie. Certains jours, on relit les présocratiques, et puis on se dit, au fond, l'esprit humain n'a pas tellement changé. Ou bien on relit Sénèque, apprendre à vieillir, ou on relit Épictète, ce qui dépend de vous. On dit, mais tout ceci, mais c'est applicable immédiatement. C'est même assez rassurant de voir que ça marche encore. Et puis, des fois, on frémit devant les mutations et les pertes de repères que connaît notre monde, et l'on se demande, et je me demande, si l'on arrivera à suivre à peu près ce qui se passe, à le comprendre à peu près, pour continuer à avoir une contribution dans le monde dans lequel on vit. Bien d'autres intervenants ont abordé avec légitimité, avec érudition, avec brio, les mutations profondes que connaissent notre univers, donc je ne me risquerai pas du tout même à les énumérer. Même si ces bouleversements de notre monde, 365 lumières sur le bouleversement du monde, 364 en tout cas pour ne pas parler de moi ce soir, ont effectivement donné des éclairages. Et les bouleversements et les impacts sont tout à fait considérables. Mais en revanche, parmi tous ces éléments, il y en a un que j'ai choisi pour le développement de ce soir, c'est ce que l'on appelle l'entrée dans une société de l'information. Le terme est apparu il y a déjà quelque temps, en particulier avec le livre blanc, le deuxième livre blanc de l'Union européenne. Le premier s'appelait « Croissance, compétitivité, emploi ». C'est pas anodin de voir que le livre blanc sur la formation a été précédé par un livre adopté par l'ensemble des pays de l'Union européenne qui s'appelait « Croissance, compétitivité, emploi ». Le second s'appelait « Enseigner et apprendre vers une société cognitive ». C'est-à-dire qu'avec une intuition assez forte, hein, 6 mois sur Internet, c'est déjà il y a 3 ans, alors 4 ans, vous vous rendez compte, avec une intuition assez forte, les rédacteurs de cet ouvrage se disaient « Mais on entre dans une société d'information, c'est un des 3 défis avec la mondialisation et l'accélération du développement des sciences et des techniques. Mais cette société de l'information, elle va avoir un impact tout à fait considérable sur notre rapport au savoir et notre façon de nous l'approprier. D'où l'expression « société cognitive ». Et cette société cognitive, bien évidemment, elle prévoyait des rapports nouveaux au savoir dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, mais également dans l'exercice de la citoyenneté. Pour ne pas trop charger le propos, et parce que j'ai un gardien vigilant à mes côtés, je ne développerai qu'un très petit nombre d'éléments qui me paraissent être des caractéristiques importantes, pas les seules loin de là, de ce qu'est une société de l'information. J'en citerai 3. L'accélération du changement et la montée de la complexité, c'est pas nouveau, ça date pas de 96, mais ça a des conséquences tout à fait directes sur un concept que tout le monde connaît maintenant, qui est la formation tout au long de la vie. L'impact des technologies de traitement de l'information et des télécommunications. Il ne faut pas être fasciné par les outils, mais en même temps, ils jouent des rôles, ils renvoient des enjeux tout à fait majeurs, j'en parlerai. Et puis, troisièmement, un développement tout à fait exponentiel des réseaux, et parmi eux, ce que l'on appelle parfois les réseaux d'apprentissage. Et ce sont ces 3 éléments qui me permettront d'aller vers la 3e partie, en montrant à quel point ces mutations remettent en question les rôles et les fonctions des lieux de savoir, des institutions de formation et des personnes qui vivent dans ces institutions de formation, dont je n'ai pas rappelé, bien sûr, tout à l'heure en parlant des lieux de savoir. Elles étaient présentes, vous vous en doutez bien. Alors, l'accélération et la montée de la complexité. Pour paraphraser, on m'a recommandé de ne pas sortir du carré vert ici, je crois, j'espère y être encore. Pour paraphraser Paul Valéry, on pourrait dire « l'avenir n'est plus ce qu'il était ». Et si l'avenir n'est plus ce qu'il était, en plus, le changement change tout le temps. Alors, vous vous rendez compte dans quelle vie nous sommes. J'ai des expériences comme vous pour obtenir des renseignements sur une boîte vocale d'une grande société de services directement liée à la vie quotidienne. Ça relève de la haute voltige. De la haute voltige. Ou du temps de la longue patience, pour citer un autre auteur. Gérer une entreprise dans la durée avec succès, en tenant compte à la fois de l'évolution des technologies, des marchés, des caprices des clients, de l'ingéniosité des concurrents, il y en a, des contraintes de la production, des légitimes attentes des salariés, des rapports avec les actionnaires, l'État, les banquiers, les conseillers, les analystes financiers et maintenant les fonds de pension. Alors ça relève vraiment du miracle. Et c'est ça la complexité. C'est pas la complication, C'est beaucoup plus que cela. Ça veut dire que les systèmes complexes sont capables de changer leurs propres règles de fonctionnement, sont capables de se modifier, et qu'il ne suffit pas de les démonter pour savoir à quoi ils peuvent servir. Dans cet univers, les salariés, pour ne parler que d'eux à ce stade du propos, se trouvent placés eux-mêmes dans des positions extrêmement difficiles. D'un côté, ils perdent progressivement leurs repères traditionnels, les formes de travail changent, les relations au travail changent également, y compris dans leur dimension socialisante et identitaire, entre travail, emploi, activité, occupation, pour reprendre les termes du rapport Boissonnat, il faut réinventer un statut, et qui n'est pas le même, et qui n'est pas constant. Ça veut dire que les relations contractuelles elles-mêmes entre travailleurs et employeurs, quelle que soit l'ampleur du nom, vont changer fondamentalement, le contrat à durée indéterminée devenant progressivement un dinosaure. Ça veut dire aussi que dans ce bouleversement, on perd des repères, mais en même temps, on constate en lisant les petites annonces à quel point les exigences des employeurs par rapport aux postes proposés deviennent tout à fait considérables. Alors le concept, je le disais tout à l'heure, le concept de formation tout au long de la vie, il prend toute sa raison d'être. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire maintenant quand on travaille quand même, je vous le demande. Évidemment, il faut maîtriser sans cesse et actualiser sans cesse ses compétences techniques. C'est vrai, on est payé pour ça. Mais il faut aussi apprendre à apprendre dans un environnement changeant, savoir constamment où trouver le savoir pertinent pour traiter une question inédite mais temporaire. Il faut savoir garder son employabilité, savoir anticiper sur l'acquisition de compétences qui seront nécessaires dans l'avenir pour résoudre des problèmes qu'on ne connaît pas encore. Il convient aussi à tout nouveau de savoir conduire des partenariats, construire et conduire des projets, établir et gérer des budgets, travailler en équipe, savoir négocier, maîtriser son stress dans une culture de zéro défaut, contribuer à un projet collectif dont on ne connaît pas forcément les ressorts et les moteurs. Bref, il faut être digne du chevalier Bayard. Et quand je dis ça, là aussi, ce n'est pas par plaisanterie. Je me suis livré à une petite étude sur l'analyse de contenu de petites annonces pour des cadres. C'est en gros cela que l'on demande, c'est-à-dire que des compétences techniques, on est passé à un terme savant qui s'appelle les compétences transverses ou compétences de troisième dimension, qui suppose acquis et maîtrisé, c'est le terme. Ça a d'ailleurs été développé au CNAM pour la première fois il y a 7-8 ans. Ça veut dire qu'on suppose acquis des compétences techniques, mais que l'essentiel est dans tout ce que je viens d'énumérer, et je vous garantis que j'en ai oublié. C'est un grand défi, ce genre de choses. On peut en parler plaisamment, c'est pas pour ça que le sujet n'est pas sérieux. C'est un grand défi pour l'évolution du développement des ressources humaines et des personnes qui remplissent ces fonctions si importantes. Il y a une chaire au CNAM dans ce domaine. C'est important également pour ce que l'on appelle désormais la gestion, non seulement des compétences, mais la gestion par les compétences, j'y reviendrai. C'est important, bien sûr, dans l'exercice de la fonction managériale, si l'on veut qu'à travers tout cela, on puisse se trouver un projet de vie qui englobe tous les autres projets. Je passe à l'impact des technologies de traitement de l'information et de télécommunication. Je n'en dirai pas grand-chose, simplement deux. La première, c'est que ce n'est pas si nouveau que ça, les technologies. Quelques points de repère. Le premier microprocesseur créé par Intel remonte à... On se croirait dans un coup au CNAM qui va répondre. 1972. C'était le 4004. L'invention du premier langage de programmation, 1975. Ça a été fait par deux inconnus. L'un s'appelle Paul Allen et l'autre William Gates, ou un nom comme ça. On aurait pu l'appeler Billy, ça aurait été plus convivial quand même, ou Bill peut-être même. Le premier micro-ordinateur muni d'un clavier et connectable à une télévision fut assemblé dans un garage par Steve Jobs et Steve Wozniak en 1976. Ils vont fonder une société dont le nom vous est peut-être connu. C'est Peer ou Apple, ou un nom... Oui, Apple, c'est ça. Merci beaucoup. C'est Apple, oui. Et le premier PC pour tous a été lancé en 1980. Il coûtait à l'époque 50 000 francs. Quant à Internet, l'idée d'un réseau non centralisé, pour des raisons militaires d'ailleurs, a été lancée en 1937. Et le réseau universitaire de courrier électronique qu'on appelait ARPANET date de 1969. Vous voyez que le N de NTIC est quelque chose qu'on peut laisser de côté maintenant. Mais ces technologies renvoient aujourd'hui à des enjeux économiques, sociaux, culturels, politiques aussi, qui sont sans précédent. avec des enjeux financiers qui sont à leur mesure. Nous avons toutes et tous en tête des prix payés, par exemple, pour rentrer sur les enchères donnant accès aux téléphones de nouvelle génération. 150 milliards de francs en Grande-Bretagne. On sait également quels sont les enjeux des débats de Bill Gates avec, encore lui, avec l'administration américaine. Sa perte, c'est 50 milliards de dollars. Ça donne une idée des enjeux financiers qui sont derrière tout cela. Car ces nouvelles technologies, au fond, sont intéressantes dans leur existence, mais sont intéressantes aussi parce qu'elles permettent de combiner plusieurs capacités qu'on n'avait jamais combinées à ce degré jusque-là. J'en citerai trois. Le développement exponentiel des capacités de stockage et de traitement de l'information. Ça, c'est ce que permet le numérique. Vous savez probablement que les capacités de traitement des informations ont été multipliées par 10 000 en 30 ans. Deuxièmement, l'affranchissement du temps et de l'espace dans la recherche et la circulation d'informations et de données qui combinent l'écrit, le son, l'image fixe, l'image animée. Le savoir est désormais, d'une certaine façon, à portée de la main, en théorie du moins, et l'on sait naviguer sur la toile sur laquelle il repose. En théorie du moins, j'y reviendrai dans la conclusion. Voilà donc le développement des capacités de traitement, l'affranchissement du temps et de l'espace dans la recherche et la circulation d'informations, et puis reste un troisième qui est la quasi-banalisation des outils informatiques qui se vendent désormais sur un marché de masse. Juste là aussi quelques chiffres. Lorsque le Windows 95 a été mis sur le marché, il s'en est vendu 4 millions les 12 premiers mois. Et lorsque email a été mis sur le marché, il s'en est vendu 30 000 dès les premières semaines. Donc ça va très vite. Et cela touche tous les âges, cette révolution technologique. Pour la petite histoire, je vous dirais qu'il y a 25% des gens de plus de 65 ans aux États-Unis qui sont connectés à Internet. On a créé pour eux un nouveau nom, on les appelle les cyberpapis. Alors tout ceci permet, et ça sera le troisième et dernier point que je voudrais développer, tout ceci permet et se nourrit en même temps un développement considérable des réseaux. Nous sommes tous dans des réseaux, je ne vais pas les citer, des réseaux familiaux, il y a même des familles tellement grandes qu'il faut un bulletin et des réunions biannuelles pour les en garder la matérielle, ça s'appelle le lien. Il y a des associations, il y a des tissus de relations, les téléphones cellulaires, les messageries électroniques, les réseaux de jeux vidéo à grande échelle. La Villette avait fait une exposition fascinante là-dessus il y a quelque temps, montrant à quel point les jeux vidéo s'étaient étendus, en particulier avec des contextes qui continuent à vivre en temps réel, que l'on joue ou non avec eux. Ce qui veut dire que quand on se reconnecte, l'endroit où nous étions a pu être détruit, construit, a changé, on a perdu ou gagné 1000 ans. C'est quelque chose d'extraordinaire qui rassemble des centaines de milliers de personnes. Et puis, bien sûr, le web. Alors, ce qui me frappe dans le développement de ces nouvelles technologies dans la société de l'information, c'est une sorte de double mouvement. D'un côté, et beaucoup de parents s'en plaignent, d'un côté, il y a un extraordinaire mouvement d'individualisation où chacun d'entre nous prend le risque de perdre petit à petit le contact avec la réalité, parce que le monde immatériel, le monde virtuel, c'est tellement plus intéressant. Il y avait dans Le Monde de ce week-end un texte tout à fait intéressant sur une expérience menée à Sacramento aux États-Unis avec quelqu'un qui est constamment dans cette situation. Donc, individualisation forcenée d'un côté, et de l'autre, la quasi-obligation de fonctionner en réseau, avec des avantages, il faut le reconnaître, tout à fait nombreux. Les réseaux permettent de tisser des liens entre ces nomades que nous devenons petit à petit dans une compétitivité internationale. Ils permettent d'accéder, je le disais tout à l'heure, en théorie à tous les savoirs du monde, mais aussi, et c'est intéressant, ils permettent de nouer des liens avec les personnes qui sont à l'origine des savoirs et de parler avec elles, quasi en temps réel. C'est une toute nouvelle façon de faire vivre ce que je disais tout à l'heure sur les lieux de savoir et sur leurs fonctions. C'est une toute nouvelle fonction, mais c'est aussi un tout autre regard sur les lieux avec lesquels nous devons nous connecter si l'on veut accéder au savoir. J'abrège un petit peu pour respecter les horaires et je passe au troisième point de l'exposé qui est donc le retour sur la formation des adultes et une nouvelle vision que l'on peut porter sur la formation d'adultes et sur les formateurs. Pourquoi est-ce que j'ai mis « formateur » entre guillemets ? Parce que c'est un terme d'abord extrêmement polysémique et qu'on peut mettre sous lui des tas de métiers fort différents, et parce que ça semble dire qu'il n'y a qu'un seul métier dans la formation, alors qu'au contraire, le livre blanc sur la formation professionnelle paru il y a 2 ans montre bien qu'il y a une très grande différenciation des métiers. Ça serait un propos trop technique, je ne vais donc pas le développer maintenant, sauf s'il y avait des questions. Et puisque je ne l'aborde pas par la professionnalité, je vais l'aborder par les logiques d'apprentissage dans lesquelles nous nous trouvons. Des logiques nouvelles apparaissent dans nos rapports au savoir. Du point de vue des personnes, on en a parlé tout à l'heure, l'évolution se fait vers une logique de curiosité et de recherche, de choix, d'auto-formation, d'accès individuel au savoir couplé à une mutualisation des informations et des démarches d'études et de résolution de problèmes, de maillage d'expertise, de construction ad hoc de savoir-faire et de comportement adaptés à une situation donnée, dont on sait qu'elle est elle-même évolutive. De l'ingéniosité, on appelle ça aussi le bidouillage, dans l'usage des outils informatiques, et puis en même temps, et toujours, d'un besoin fort d'accompagnement et de prise de distance par rapport aux médiations traditionnelles exercées par les formateurs. On attend toujours beaucoup du monde de la formation et des agents de la formation, mais ce qu'on en attend, c'est dans une sorte de relation, j'ose pas dire oedipienne, dans laquelle à la fois on a besoin, mais en même temps en s'en tenant ou en les laissant à distance, j'y reviendrai tout à l'heure. Jamais on n'a eu tant besoin de la formation, jamais elle n'a connu un tel professionnalisme, en particulier dans l'ingénierie, jamais elle n'a vécu dans un tel champ de contraintes et de tensions. Parce que plus on compte sur la formation, et plus on lui demande des comptes. Et de ce point de vue, si l'on regarde du côté des entreprises, on s'aperçoit que les exigences vis-à-vis du monde de la formation sont elles-mêmes en pleine croissance. D'abord, les problèmes posés à la formation ne sont plus jamais des problèmes pédagogiques. Ce sont des problèmes de maintenance, des problèmes de sécurité au travail, des problèmes de gestion financière, des problèmes de mutation technologique, etc., aux formateurs de les traduire en problèmes de formation. Ce sont d'autres problèmes que l'on pose. Je me souviens toujours d'un directeur général qui appelle un nouvellement nommé, qui appelle son directeur de la formation, c'était dans une grosse entreprise du secteur bâtiment, travaux publics, pour rester vague, et qui dit à son directeur de formation, « Nous avons trop de frais financiers. » « Oui, monsieur le directeur général, dit le directeur de formation, je suis tout à fait heureux que vous me partagiez vos soucis. Je ne suis pas le directeur financier, c'est quelqu'un d'autre, moi je suis le directeur de la formation. » Et justement, lui répond le directeur général, « C'est parce que vous êtes le directeur de la formation, et je crois qu'il y a des questions de compétences dans cette affaire que je vous appelle. » Les problèmes posés ne sont pas en termes pédagogiques. Mais en même temps, il y a ce courant consistant à dire « il va falloir faire plus et mieux, mais avec moins. » Et ça toujours. Avant, on pouvait négocier sur des budgets et dire « si on a moitié moins de temps, on va faire moitié moins de choses. » Non, on va faire la même chose. « S'il faut faire mieux, il va falloir dépenser. » Non, on va faire pareil. Plus on compte sur la formation, plus on lui demande des comptes. Il faut faire plus et mieux avec moins, et juste ce qu'il faut quand il le faut. Je ne parle pas de la nécessité pour la formation de gagner le droit d'être exercé pendant les 35 heures. Tout ceci veut dire que les vertus de souplesse, de flexibilité, d'adaptabilité deviennent essentielles pour la formation. Ça veut dire aussi que les formateurs vont devoir s'inscrire dans cette logique nouvelle. Alors cette logique nouvelle, elle conduit au développement de formes inédites de formation. Je vais là aussi donner quelques exemples. D'abord, il me semble, par rapport aux travaux que vous aviez la gentillesse de rappeler tout à l'heure dans les ouvrages, il me semble que les frontières ont tendance à s'estomper entre des champs jusque-là complémentaires, mais séparés, comme l'information, la documentation, la communication et la formation. Les métiers de l'information et de la documentation vont s'en trouver certainement très très rénovés. Ils y sont déjà prêts, je dirais même qu'ils ont déjà commencé cette mutation. Je pense à ceux qui s'enseignent au centre chargé de ces questions, au CNAM, dont les représentants sont dans la salle. Par la décentralisation croissante des activités et des décisions de formation, on responsabilise la hiérarchie, mais ça peut vouloir dire aussi que ça décrédibilise l'idée d'un professionnalisme dans les métiers de la formation, puisque, pour exagérer là aussi un petit peu, on voit des lieux où, en quelque sorte, on doit développer, à travers la formation, des kits de survie pour savoir faire quelque chose, et puisqu'il s'agit de kits de survie, des formateurs au pied nu sont bien capables de le faire. Donc cette idée qu'il y a un vrai professionnalisme dans la formation est quelque chose, c'est une chose sur laquelle il faut aussi savoir se battre. Mais cette mutation, elle se fait aussi par la montée en puissance de formes de formation parfois plus complexes, parfois moins formelles, en tout cas beaucoup moins soumises aux trois unités, comme quelqu'un l'a dit, de temps, d'action et de lieu. Elles sont plus volatiles, elles sont également moins contrôlables collectivement et en tout cas moins gérables par les services de formation eux-mêmes. Nous savons depuis le développement du concept de compétences, et Dieu sait, certaines personnes dans la salle là aussi y ont contribué très, très puissamment, nous savons que la formation est désormais très loin d'avoir le monopole de la formation, c'est-à-dire le monopole de la production des compétences. Le travail crée des compétences, parce qu'il nous aide à savoir ce que nous savons, les bilans de compétences créent des compétences en quelque sorte, mais le bon usage des consultants, l'expatriation, la gestion de la mobilité et des carrières, le recrutement qui permet d'acheter des compétences sont aussi créateurs de compétences. Il faut donc bien voir que quand on parle ici de formation, on ne parle pas automatiquement des services de formation. On parle des actions qui vont permettre de développer des savoirs, des savoir-faire, des comportements, comme le dit quelqu'un, qui sont utilisables, utiles et utilisés. Mais qui va être le lieu de savoir ? Alors là, il faut creuser un peu plus la question, c'est ce que l'on va faire ensemble maintenant. Le développement des formes inédites de formation, on pourrait les décrire comme des architectures floues, en quelque sorte. C'est-à-dire des lieux dans lesquels il y a à la fois des séances en présentiel, il y a encore des cours, il y a encore des travaux pratiques, mais il y a aussi du télétutorat, il y a aussi des situations de travail qui sont exploitées pour être rendues formatrices. Il y a des organisations qualifiantes, il y a l'analyse des dysfonctionnements, c'est un concept cher à Bertrand Schwartz qui montre à quel point l'analyse de ce qui ne marche pas est souvent beaucoup plus éducative que l'analyse de ce qui marche bien. Il y a bien sûr des logiciels, des didacticiels, des centres de ressources, des lieux de progrès, des centres de ressources, donc toute une série d'éléments auxquels on peut avoir accès en temps réel, quand on le veut, l'ensemble étant guidé par un projet. Au CNAM, dans la deuxième quinzaine de septembre, on va accueillir tous les auditeurs ou futurs auditeurs qui le désirent, pas tellement pour parler formation, mais pour parler de projet et de projet de vie. Parce que ce qui va faire l'unité de ce parcours complexe, de cette architecture floue, c'est justement ce à quoi les apprentissages vont servir. Et c'est la raison pour laquelle on attache tant d'importance à la façon de fédérer ces apprentissages dans des lieux extrêmement divers. Vous voyez que cette idée de lieu de savoir éclate complètement, avec des personnes extrêmement diverses. Cette idée d'être de savoir éclate aussi dans une certaine mesure, mais autour d'un projet fédérateur. Alors, là aussi, j'abrège un tout petit peu. Ça ne veut pas dire pour autant la disparition des lieux de savoir que sont les services et les organismes de formation. L'hypothèse que font un certain nombre d'entreprises, c'est qu'ils vont continuer à jouer un rôle tout à fait important, mais dans le cadre d'une évolution et d'une redistribution de leurs rôles respectifs. Je n'engage que moi en disant cela, les organismes de formation ont toujours encore un bel avenir devant eux, surtout s'ils réunissent des formateurs et des consultants communicants, crédibles et dotés d'un vrai professionnalisme, et surtout s'ils savent dépasser une simple logique de client-fournisseur pour aller vers des choses qui sont de plus en plus demandées, c'est-à-dire de la co-conception, des actions de transformation des compétences, du copilotage et parfois des co-investissements. Je ne parle pas ici des parcours de professionnalisation et de navigation professionnelle, d'autres peut-être en parleront pour compléter cette lacune grave dans mon propos. J'ai parlé des organismes de formation, je parlerai maintenant des centres de formation présentiels et des services de formation des entreprises, des administrations, des branches, des collectivités nationales et territoriales, des organismes consulaires. Il reste aussi tout à fait indispensable, ne serait-ce que parce que les évolutions évoquées plus haut nécessitent des ingénieries fines, une maîtrise technologique tout à fait importante, un soutien logistique et financier subtil, monter une formation ouverte et à distance dans laquelle chacun peut rentrer quand il le veut, sortir quand il le veut, apprendre ce qu'il désire, le tout dans un cadre contractuel, bien sûr. Vous vous en doutez, ça suppose une logistique qui dépasse ce que l'on doit faire avec un stage. Et puis ça suppose aussi souvent l'établissement de partenariats régionaux, nationaux, transnationaux, qui inscrivent ces centres de formation, ces centres présentiels ou ces services dans un maillage souvent international, c'est le propre de la mondialisation, qui est un maillage fait d'expertise et de moyens éducatifs. Et les nœuds de ces maillages, c'est très souvent les centres de ressources. Je ne sais pas pourquoi j'ai une page blanche, j'avais certainement des choses extrêmement importantes à dire. Je vous en ferai grâce pour ce soir. Voici pour les mutations de l'accès au savoir et des lieux de savoir. Reste enfin à parler des personnes, une redistribution des responsabilités et des enseignants et des formateurs. Une part importante du rôle des formateurs et surtout des enseignants dans le passé tenait à ce mot que j'ai utilisé tout à l'heure, détenir le savoir. C'est-à-dire que c'était les personnes qui détenaient les savoirs et qui savaient aider leurs interlocuteurs à se les approprier. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? Les savoirs, ils arrivent à portée de la main. Les enfants ont quelquefois vu à la télévision de la veille ce qui sera l'objet du cours d'après-demain. On est au courant, on est connecté, on est branché, comme on dit. Par l'intermédiaire de la main, mais plutôt celle du clavier, on peut accéder à ces connaissances, à tous les savoirs du monde, je disais tout à l'heure, on peut aussi participer à tous les débats qui mettent en cause ces savoirs. C'est-à-dire que ça n'est pas un savoir passif, ça peut être aussi un savoir rendu intelligent. Alors, qu'est-ce que deviennent les enseignants et les formateurs là-dedans ? Ça n'est plus sur la détention du savoir que leur statut se construit. C'est sur autre chose. Je peux vous dire que ce n'est pas si facile que ça à intégrer et ce n'est pas si facile que ça à vivre. Parce que ça veut dire qu'on change de statut, qu'on perd l'autorité du savoir détenu et maîtrisé et que, comme le disait quelqu'un, on passe, c'est une belle image, on passe de l'estrade au plancher. Et c'est là qu'on doit travailler. Et pourtant, ces enseignants, ces formateurs restent tout à fait indispensables si l'on veut garantir l'accessibilité au savoir pour le plus grand nombre, et surtout, si l'on veut garantir pour le plus grand nombre la capacité de donner sens à ce savoir, c'est-à-dire de s'orienter un peu du savoir vers les connaissances. Alors, par-delà la production de ressources éducatives, dont je ne parlerai pas ici en tout cas, enseignants et formateurs doivent être en mesure maintenant de relever le défi de toute une série de médiations. En voici trois exemples. La première, médiation, ça consiste à aider celles et ceux qui le désirent à pouvoir identifier ce qu'ils savent, à le faire savoir, à le valoriser socialement. On attache ici beaucoup d'importance à la reconnaissance et à la validation des acquis. Et on attache d'autant plus d'importance que l'on voit les transformations que ces entretiens qui mettent en évidence ce que l'on sait déjà, qu'on le sache par les études, le monde du lycée, du collège ou le monde de l'université, ou qu'on l'ait appris par l'expérience, on sait des choses. Et on voit des gens qui rentrent chez nous à l'orientation et à qui on dit, ben voilà, vous n'avez pas Bac plus 2, bon, vous allez avoir 3, 4 unités de valeur, puis ensuite, si vous voulez un diplôme de second cycle, il faudra 6 unités de valeur. Et on voit le poids des années de cours du soir qui courbent les gens. Et puis, là, on va creuser la question, mais surtout ça, qu'est-ce que vous savez déjà? Et on voit physiquement, et j'en ai parlé avec Mme Rivoy, la responsable de cette maintes fois, on voit physiquement des gens qui ressortent de ces entretiens debout. Parce qu'ils ont vu qu'à l'université, dans un lieu de l'enseignement supérieur, on pouvait éventuellement avoir un diplôme de l'enseignement supérieur avec une seule unité de valeur. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà une médiation entre ce que l'on croit savoir et ce que l'on sait réellement, entre ce dont on aura besoin dans la vie professionnelle, entre ce qui va contribuer à l'employabilité et ce que l'on voit dans une période de détresse. Première médiation. Ça veut dire qu'il faut faire rentrer dans les activités pédagogiques et y faire rentrer à part entière des choses qui étaient plutôt jusque-là, en tout cas dans les années 80 et avant, un peu sous-estimées. Par exemple, des activités amont, comme l'accueil, l'information, l'orientation, l'aide à l'élaboration de projets, ou des activités aval, comme, je l'ai dit il y a un instant, la reconnaissance et la validation des acquis. Ça fait partie à part entière de cette première médiation. Je vais vite. Deuxième médiation, c'est savoir accompagner les apprenants dans leurs apprentissages et faire qu'ils trouvent ou qu'ils reçoivent des réponses quand ils ont besoin d'aide. Alors ça, c'est quelque chose de compliqué. C'est assez facile, au fond, de faire un cours dans une discipline et d'appliquer un programme. Mais arriver à résoudre ou à aider les apprenants à résoudre leurs problèmes d'apprentissage, ça, c'est quelque chose de compliqué. D'abord, parce qu'il faut comprendre pourquoi quelqu'un n'apprend plus. Est-ce qu'on n'apprend pas parce qu'on ne peut pas apprendre pour des raisons psychomotrices, ou est-ce qu'on n'apprend pas parce qu'on ne sait pas apprendre pour des raisons cognitives, ou est-ce qu'on n'apprend pas parce qu'au fond, on ne veut pas apprendre pour des raisons affectives? Le diagnostic est une chose difficile, et il faut le faire vite, là, maintenant. Et puis ensuite, il faut apporter de l'aide. Ça peut être aussi de l'aide dans le domaine de l'usage des machines et de la tuyauterie. Ça peut être de l'aide dans le domaine de la motivation. On voit ici des personnes qui, au bout d'un certain temps, n'ont plus tellement envie d'apprendre, quoi. Ils sont fatigués. On a changé de mot au CNAM cette année, c'est très important. On parlait des abandons. Ah oui, il y a des gens qui abandonnent. Le CNAM, oh là là, les gens abandonnent. Il y a beaucoup plus de gens qui abandonnent que des gens qui vont au bout. Et puis parce qu'un autre service appelé l'Observatoire des métiers et des carrières a analysé très finement qu'est-ce qui se passait dans les interruptions de parcours, on a découvert que des gens n'abandonnaient pas, venaient au CNAM ou ailleurs pour un projet particulier et s'arrêtaient quand le projet était rempli. Donc ce ne sont pas des abandons, ce sont des projets réussis, bien au contraire. Ça méritait quand même qu'on s'y attache. Ce n'est pas de la publicité pour l'établissement, parce que je crois que c'est valable partout, mais c'est quand même important de voir cette nuance. Ça fait aussi partie de l'aide, ça. Et puis, je dirais qu'il faut aussi aider les apprenants à changer de posture d'apprentissage au moment où les supports du savoir changent d'eux-mêmes profondément. Beaucoup d'entre nous, dont je suis d'ailleurs, sont restés attachés à une forme de culture papier. Et puis là, on entre dans une autre culture, qui est la culture du fugace, de l'immatériel, du temporaire, de l'écran, du non-écrit. Et il faut apprendre à construire des savoirs à partir d'informations dispersées. Il faut entrer dans des hyperespaces. On sait quand on y entre, mais on ne sait pas où on va aller. Quelquefois, d'ailleurs, on n'arrive pas où on veut aller, mais on arrive à des choses encore plus intéressantes. Il faut pouvoir dialoguer. On m'avait appris à écrire dans mon coin pour que personne ne le voie. On va mutualiser les savoirs avec les autres, puisqu'on est dans des réseaux. C'est une nouvelle forme de culture, c'est-à-dire la cyberculture. C'est quelque chose qui ne va pas de soi. C'est aussi une médiation que les enseignants et les formateurs peuvent rendre. Et puis, une troisième et dernière médiation est nécessaire. Elle se situe à l'interface entre l'apprenant et ses groupes sociaux d'appartenance, la famille, l'entreprise, les collectivités de toute nature. Parce que la formation, c'est le plus souvent un moyen pour atteindre d'autres fins, alors il faut être en mesure de bien voir comment ce que l'on apprend peut s'insérer dans des projets plus vastes. Et les formateurs, au sens large, ont là aussi un rôle à jouer. D'une part, dans l'aide à la reconnaissance par les apprenants de ce qu'ils doivent s'approprier à travers les formations. C'est bien d'être connecté à tous les savoirs du monde, mais ça fait beaucoup, tous les savoirs du monde. Que faut-il apprendre dans une situation donnée? Voilà quelque chose de tout à fait essentiel si on veut optimiser ses parcours. Et puis, deuxièmement, Alors ça implique des activités de veille, des activités de repérage des tendances lourdes, des faits porteurs d'avenir. Dans beaucoup d'entreprises que je connais, le rôle ou l'un des rôles du responsable de formation, c'est aussi d'éclairer l'avenir. Puis deuxième aspect, à titre d'exemple de cette mutation, c'est le dialogue avec les milieux professionnels, c'est-à-dire cette garantie que les savoirs que l'on propose seront utiles, seront utilisables, mais qu'ils seront aussi utilisés. Ça veut dire que cette troisième médiation, c'est aussi un partenariat continuel entre le monde de l'éducation et le monde professionnel. Alors voilà, j'en ai fini avec ce que j'avais prévu de vous dire. Tout ce que je viens de décrire correspond à des avancées considérables et je pense que ce ne sont pas les responsables de l'UTLS qui vont nous contredire là-dessus. Mais en même temps, elle laisse quand même quelques questions en suspens. Alors j'en ai 19 à proposer, j'en citerai une. Qu'est-ce que c'est qu'Internet ? Internet, c'est un réseau sans frontières. Et on parle de la société d'information avec beaucoup d'enthousiasme. Bon, on en parle ici, on en parle dans cet amphithéâtre, où vous avez eu la gentillesse de venir en ce soir d'été. Mais en même temps, est-ce que ça veut dire que le monde entier s'oriente vers une société, je ne dirais pas de la connaissance, mais une société de l'information ? Alors juste quelques chiffres là pour montrer, sans les développer, car je n'en aurai pas le temps, les enjeux auxquels nous sommes renvoyés. Internet, réseau mondial. Il y a plus de fax et d'ordinateurs aux États-Unis que dans les 40 pays de l'Afrique subsaharienne. Plus de 50% des sites web mondiaux sont hébergés aux États-Unis. Dans ce pays, comme au Canada, en Suède, en Finlande ou en Australie, plus de 30% des ménages sont connectés à Internet. Il n'y a que 6,5% des ménages fin 1999 qu'il était en France. Il faut dire que la proportion a doublé en un an. Mais il y en a moins de 1,5% en Égypte, en Inde, en Indonésie, au Maroc, au Mexique, en Russie. L'écart peut-il se réduire ? Il y a des questions d'argent. Je n'ai pas le temps de développer la valeur de l'information, mais quand même. Au Canada, le PNB moyen annuel par habitant est d'environ 118 000 francs. Être en ligne 12 heures par mois, ça coûte 64 francs. En Égypte, l'un des premiers pays arabes à s'être ouvert à Internet, le PNB moyen par habitant est de 7200 francs, et pas de 118 000 francs. Le coût de la même connexion est de 143 francs. Ça veut dire que les questions culturelles sont doublées de questions financières, toutes bêtes. Et l'on sait qu'il y a plus d'un milliard d'illettrés sur la planète. Donc on se trouve là dans un considérable champ de tension. Le PNUD nous redit régulièrement qu'Internet est un moyen de développement économique considérable. C'est vrai. Nous savons à quel point il structure l'entrée dans une société de l'information plutôt positive. À mes yeux, là aussi, c'est vrai. Mais en même temps, il y a une corrélation, une anticorrélation entre le PNB et l'accès à la société de l'information. Et le problème, c'est que le développement d'Internet est calqué sur celui de l'économie. Alors voilà. J'ai présenté le sujet d'une façon assez positive. Je voulais terminer sur une conclusion qui n'est pas triste, qui n'est pas pessimiste, mais qui montre que nous sommes dans des rapports de force et dans des jeux qui se font à l'échelle mondiale, sur des domaines linguistiques, sur des rapports culturels, mais également, tout simplement, sur des rapports financiers. Et ceci marque profondément ce qu'est réellement une société de l'information. Alors que faire dans des champs de tension, dans des champs de contraintes ? Ben, quand on ne sait pas toujours exactement quoi faire, on peut toujours se tourner vers la poésie. Parce que la poésie donne quelquefois des visions qui ne seraient pas réduites à ce que les mots nous permettent, à les descriptions nous permettent de dire. J'ai trouvé dans les matinaux de René Char ce texte qui, après tout, pourrait servir de vie à quelqu'un qui a envie de travailler dans la formation. Si la tempête en permanence brûle mes côtes, mon onde au large est profonde, complexe, prestigieuse. Je n'attends rien de fini, j'accepte de godiller entre des dimensions inégales. Pourtant, mes repères sont de plomb, non de liège, et ma trace est de sel, non de fumée. Je vous remercie de votre attention.
Bonsoir monsieur.
Bonsoir madame.
Est-ce que vous pouvez nous parler du
Vous avez parlé au début de votre conférence du rôle des cabinets de curiosité. Est-ce que vous pouvez, vous avez cité l'exemple d'un cas en Autriche. Est-ce que vous pouvez nous parler du cabinet de curiosité d'Isabelle d'Este, s'il vous plaît, qui est très connu dans les livres d'histoire, si vous pouvez. Merci.
Je ne le peux pas vraiment, mais comme c'est ici un lieu de dialogue, vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots. Parce que je ne l'ai pas visité, je ne le connais pas. Désolé.
Bien, une question, allez-y.
Oui, bonsoir monsieur, j'arrive en courant, excusez-moi. Je voulais vous signaler une chose, que ce n'est pas le savoir qui est intelligent, c'est le savoir qui rend intelligent. Le problème est d'accéder, de pouvoir accéder au savoir. Merci.
On va peut-être prendre quelques questions successives.
Non, allez-y.
Non, mais je propose qu'on recueille quelques questions, puis qu'on puisse peut-être éventuellement les regrouper.
Une autre là, monsieur. Le micro vous arrive par là.
Bonsoir, monsieur. Je suis un étranger et aussi un auditeur assez assidu. Donc, Dieu me permet de faire d'abord, en tant que auditeur assez assidu, de faire une petite protestation, entre guillemets. Parce que vous avez parlé deux fois 365 conférences. Or, vous n'êtes pas sans le savoir que cette année-ci, nous avons le bonheur d'avoir 366 figures. Donc, je regrette que vous nous ayez volé une conférence qui doit être très précieuse. Deuxième point, c'est la question à propos de votre écriture, comme votre texte présenté sur l'écran. En arrivant à la fin, j'ai été enfin très content de lire un texte qui était écrit avec le minuscule mélangé de majuscule. Tandis que pour les autres textes, vous avez énoncé, vous avez transcrit uniquement avec des majuscules, en enlevant tous les accents français. Alors, je suis de formation idéographique. Donc, je suis sensible à l'image. Donc, en utilisant tous les majuscules, en enlevant toutes les accentuations, ça me paraît un peu enlever les charmes du français. Pourquoi n'avez-vous pas utilisé pour les textes, d'autres textes aussi, l'usage de minuscules avec un peu de majuscules? Merci, monsieur.
Ça va. Alors, je vais répondre à cette question si toutefois le fait que j'ai volé indûment une soirée m'autorise quand même à rester ici pendant
bien sûr. Un
petit moment. J'ai fait ça, alors je suis très sensible à cette remarque, d'autant plus que je n'avais pas pensé à cet aspect des accents. Je vais vous dire pourquoi je l'ai fait. J'ai rencontré un collègue vendredi qui était venu deux ou trois fois les jours précédents et qui me dit, fais bien attention parce qu'avec le nouveau rétroprojecteur, on voit moins bien qu'avec les autres. Il faut donc que tu sois très précis dans ton graphisme. Et c'est comme ça que j'ai pensé à des majuscules. Voilà, c'est aussi bête que ça parce que c'est plus lisible. J'ai éliminé tout ce qui était italique ou autre. Je n'ai pas pensé à ce que vous dites. Je n'avais pas non plus le temps de passer des images, mais j'aime bien passer aussi des images avec mes textes. Ça sera pour une prochaine fois.
J'ai une question là toujours. Monsieur, levez-vous. Levez-vous. Le micro marchera.
D'accord. J'ai eu le sentiment à certains moments, mais sans doute errais-je, d'entendre dans votre discours une représentation du savoir comme exclusivement ou comme très fortement lié à l'utilité du savoir, à l'utilitarisme industriel du développement de nos sociétés. Et je m'interroge, est-ce qu'il n'y a pas une corrélation entre ce développement économique et justement le développement des savoirs qui serait une résolution du savoir ou une diminution du terme, une quelque chose qu'il réduirait à n'être plus que ce qui sert.
Ah. Oui, alors là, je suis aussi très très sensible à cette remarque, pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand on dit faire plus et mieux avec moins, quand on dit des logiques d'exigence de la compétitivité, quand on parle de choses de ce genre, quand je parle des choses de ce genre, c'est parce que je suis tout à fait soucieux des risques de perte de sens de la formation. Ça sera une première réponse à votre question. C'est-à-dire, vous m'en mettez pour 2 jours, quoi, hein, parce que 4, c'est pas possible. Alors, c'est vrai que les formateurs qui ont parfois tendance à être un peu disert, parfois un peu bavard, parfois un peu jargonnant, peuvent avoir tendance à faire trop. Et c'est vrai que réduire, ça peut être une exigence salutaire. Mais en même temps, au-delà d'un certain seuil, on ne peut plus faire passer le sens des choses. C'est-à-dire qu'on ne fait plus passer que des informations. Et puisque, comme je l'ai dit, il faut faire juste ce qu'il faut quand il le faut, alors on est dans l'utile, ou même dans l'utilitarisme. Un mot que je n'ai pas prononcé, mais que je reprends bien volontiers dans votre propos. Hein. Donc, première réponse, évidemment, ce risque existe. Et j'ai plusieurs fois écrit que l'une des qualités du formateur, et qui n'est pas la plus facile, c'est d'être en mesure de dire non dans certains cas, c'est-à-dire de ne pas s'engager dans des actions de formation qui n'en sont plus, parce qu'elles ont perdu ce qui faisait leur sens. Première remarque. Deuxième, c'est autour de la réduction, quoi, en quelque sorte. Hein. Il y a des limites à la réduction. Au-delà d'un certain seuil, ça n'est plus la même chose. Les gens qui font des barrages, par exemple, savent bien. Quand on fait un modèle réduit d'un barrage, en tant qu'ingénieur, on sait bien qu'il y a des choses qui ne se passent qu'à une certaine échelle et on ne les voit pas à une autre échelle. Il y a donc cette précaution à avoir. Deuxième réponse, parce que, je l'ai dit au début, on parle ici de formation professionnelle des adultes, alors c'est vrai que j'ai donné un éclairage sur un aspect de la formation des adultes et pas sur les autres. J'avais d'ailleurs retenu bêtement qu'on avait droit à 1 heure. Et quand vous m'avez dit 50 minutes, alors, il a vraiment fallu que je fasse des coupes sombres. J'ai coupé un certain nombre de passages sur cet aspect-là. La formation des adultes, à mes yeux, ça n'est pas que la formation professionnelle des adultes. C'est bien d'autres choses. Le dernier article que j'ai écrit, c'était sur les musées. Et sur en quoi les musées sont des lieux de savoir. Même si on y trouve dans sa vie quotidienne professionnelle, en général, pas énormément d'utilité. Donc, je suis pour ma part tout à fait persuadé que la formation, ça sert aussi à apprendre à bricoler, la formation, ça sert aussi à apprendre à vivre en couple, la formation, ça sert aussi à se cultiver, la formation, ça sert aussi à savoir rentrer dans une cathédrale et à comprendre ce qui s'y passe, que l'auto-formation joue un très grand rôle, et pas seulement dans le champ professionnel, etc., etc., les langues. Donc, je ne vais pas faire une longue liste. Mais ceci pour dire que c'est là aussi un choix délibéré, consistant à me centrer sur la formation professionnelle. De grâce, enfin, je crois que ceux qui me connaissent savent que je ne borne pas mes centres d'intérêt à ce seul aspect de la formation. Je ne sais pas si ces réponses vous conviennent, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais enfin, c'est ce que je vous dirai en écho à ce que vous avez dit et à quoi je suis là aussi... très sensible, vous avez pris des précautions, vous avez dit « j'ai le sentiment d'entendre, merci d'avoir été délicat ».
On a parlé de la question du savoir, je voudrais articuler cette question au problème du pouvoir. C'est-à-dire, en conséquence de le système actuel de l'informatique, les caractéristiques du système, c'est que le savoir devient une marchandise. Et de plus en plus, ceux qui ont les moyens, ils ont la possibilité d'acheter ce savoir. Donc, à partir de là, ils ont plus de pouvoir qui pose la question du politique. J'aimerais bien avoir une question. S'il y a une dimension politique dans cette complexité de la question de la formation des adultes. Et merci.
Alors, c'est intéressant de poser cette question à la fin, puisqu'on arrive à 19h, je crois. Enfin, oui.
20h.
Parce que, alors là, on ouvre un pan considérable. Ça fait d'ailleurs partie de certaines choses que j'ai sautées tout à l'heure. Alors, ça me fait bien plaisir de pouvoir en parler un peu avec vous et devant tout le monde ici. Si j'ai fait cette conclusion en termes de comparaison entre les pays, c'est parce que, justement, l'une de mes craintes, c'est que cette dualisation et cette anglo-saxonisation, pour faire un néologisme, risquent de ne plus jamais pouvoir être dépassées. Parce que quand on a dans un pays la moitié des appareils de traitement de l'information du monde, mais qu'on a un revenu, un PNB par habitant qui est 1000 fois ou 500 fois supérieur au coût d'accès à Internet, alors que dans d'autres pays, le coût d'accès à Internet est significatif par rapport à son revenu annuel, alors on n'a pas de chance de rattraper. Je prends une analogie. Il y a quelques années, je travaillais avec une grande firme italienne de traitement de l'information et d'informatique, qui est une firme à l'échelle mondiale. Et le directeur général tenait un propos qui m'avait beaucoup surpris à l'époque. Il nous avait dit, on va se situer dans une niche, parce qu'à côté d'IBM ou de NEC au Japon, nous n'avons plus aucune chance de pouvoir les rattraper. Car le volume de leur profit annuel leur permet d'investir à des niveaux qui sont de l'ordre de celui de notre chiffre d'affaires dans notre propre pays. On n'a plus de chance de les rattraper. Donc quand vous parlez de dimension politique, je crois qu'il y a effectivement là un premier aspect qui est des rapports de force à l'échelle mondiale dans lesquels le risque est une dualité beaucoup plus forte que celle qu'on évoquait il y a 15-20 ans, avec celles et ceux qui auront accès au savoir et qui pourront se payer les moyens d'accès évolutifs. On parle maintenant du tout-en-un dans lequel il y a un téléphone cellulaire, il y a un fax, on a ses mails, on a un ordinateur, on a un GPS, etc. Il faut pouvoir se le payer. Et puis les personnes qui ne pourront pas se le payer. Donc l'accès au savoir est devenu, effectivement, quelque chose qui se paye et quelque chose qui n'est plus forcément à la portée de tout le monde. Deuxième aspect, j'ai parlé des coûts de connexion Internet, je n'ai pas parlé des investissements nécessaires pour avoir une infrastructure. En France, quand on ne peut pas avoir sur son téléphone portable une communication dans un coin, somme toute, pas si désertique, je pense à l'Aisne, par exemple, ou à l'Abri, on crie au scandale. Mais il faut savoir qu'il y a des pays dans lesquels, tout simplement, en dehors des services publics, il n'y a pas de téléphone possible. Donc, la répartition des moyens de traitement et de l'information de télécommunication est aussi quelque chose de majeur. Avec un troisième aspect, et vous l'avez dit, qui est le savoir devient une marchandise. C'est aussi une de mes hantises, c'est que la formation entre dans une sphère marchande. Bien sûr que le savoir, ça a un prix. Et le prix, ça s'appelle le délit d'initié, dans certains cas. Bien sûr qu'être détenteur d'un savoir stratégique, ça a un prix. Et la meilleure preuve, c'est qu'il y a des fuites de cerveau qui sont tout à fait organisées. Ça veut donc dire que nous sommes entrés dans une civilisation dans laquelle, apparemment, tout est fait pour que chacun, chacune ait accès au savoir, mais qu'en réalité, ces questions de coûts, ces questions de stratégie, ces questions de captation des savoirs, là où ils se trouvent étant dans la tête des gens, deviennent des questions tout à fait géopolitiques. On appelle ça, le ministère de l'Industrie avait trouvé un mot là-dessus, il appelait ça les échanges d'invisibles. C'est-à-dire qu'il montrait à quel point, dans les échanges internationaux, au moment où on a beaucoup insisté sur les actions immatérielles, il montrait à quel point l'essentiel des transactions internationales n'était plus sur des marchandises physiques, mais était sur des données invisibles, des secrets de fabrication, des brevets, des marques, des accès à certaines banques de données secrètes, etc., etc. Donc, la façon de pouvoir accéder à l'information est quelque chose qui est soi-même, qui relève elle-même plutôt de choix managériaux ou de choix politiques au plus haut niveau. Je donne un dernier exemple, si j'en ai le temps. Oui. Nous, on a ou on n'a pas Internet, et puis on va chercher du savoir. Et puis il faut du temps pour le trouver. Quelquefois, on a des logiciels pour faire le tri des savoirs inutiles qui nous arrivent, parce que c'est aussi un problème d'être surchargé de savoirs inutiles. Une des façons de noyer quelqu'un, de l'empêcher d'aller à l'essentiel, c'est de lui donner trop de savoirs inutiles. Je connais des entreprises, des sociétés de conseil qui fonctionnent de la façon suivante. Chaque cadre, chaque consultant a accès à 3 réseaux. Le réseau Internet, mais le réseau Internet étant filtré par des agences spécialisées de manière à ce qu'arrive tout ce qui est dit, écrit, publié sur le champ de spécialité du consultant donné et que le reste soit éliminé. Bien sûr, il peut y avoir accès s'il le veut. Il y a un accès à intranet, c'est-à-dire que comme on peut capitaliser la mémoire de la firme, tout consultant peut avoir accès à tout ce qui a déjà été dit et écrit sur les sujets qui l'intéressent, et en particulier tous les contrats qui ont déjà été traités dans ce domaine. et plus encore à travers cet intranet, il a accès aux personnes qui ont été à l'origine de la signature ou de la conduite de ces contrats. Quelle source extraordinaire par rapport à un consultant indépendant. Troisièmement, ils ont chacun accès à un extranet, c'est-à-dire une connexion avec les clients de la firme, parce que la firme partage avec ses clients et réciproquement toute une série d'éléments d'information qui peuvent être mutuellement utiles. C'est ce que j'appelais tout à l'heure les maillages d'expertise ou que j'appelais aussi les partenariats. Donc, quand on est dans ce genre de situation, il est vrai qu'on a un pouvoir sur l'accès au savoir qui est sans commune mesure avec d'autres. Ceci n'est pas négociable. Voilà ce que je répondrai volontiers pour aller dans votre sens. Je crois qu'on est assez en phase.
Pierre Caspar, je vous remercie.